Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et c'est reparti, c'est la rentrée, c'est aujourd'hui. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Tous les matins de la semaine, donc, le réveil culturel donne la parole à ceux qui font l'actualité culturelle. Les lundis, on reçoit les écrivains. Les mardis seront consacrés aux expos et nous accueillerons des artistes, des historiens de l'art, des commissaires d'expos, autant de guides indispensables, n'est-ce pas? Le mercredi, ce sera les mercredis cinéma, on aime le cinéma. Les jeudis affirmeront aussi notre passion pour les polars. Et les vendredis, encore et toujours, l'actualité de la bande dessinée, le réveil culturel. Nouvelle saison, c'est donc reparti avec Corinne Amar à la coordination et Christine Robert à la réalisation en attendant le retour de vacances de Vincent à Bouchard et ce matin à la technique Sébastien Royer. Le réveil culturel, donc tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 et puis ensuite à l'heure que vous souhaitez en vous abonnant au podcast de l'émission ou en passant par l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Tous les lundis, c'est la littérature donc qui est à la une du réveil culturel et aujourd'hui on va parler du dernier roman de Nina Bouraoui, édité par La Thèse, qui a pour titre « Tous les hommes désirent naturellement savoir », emprunté donc au premier mot de la métaphysique d'Aristote. Savoir pour le plaisir et pour se réparer et pour emprunter le chemin vers le savoir et la liberté. C'est un beau roman habité de souvenirs trop longtemps gardés secrets et par des questions d'identité et de mémoire.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Je suis particulièrement heureux de vous retrouver, de redémarrer la saison avec vous, de retrouver votre univers qui m'est familier à plus d'un titre, votre histoire, la géographie de votre histoire, ces allers-retours entre Alger et Paris, entre les souvenirs d'ici qui se mêlent à ceux suspendus là-bas et qui me parlent directement. Mais votre univers littéraire touche d'autres personnes, beaucoup de personnes qui vous suivent depuis 25 ans maintenant. Et dans votre dernier roman, d'ailleurs je rappelle le titre, « Tous les hommes désirent naturellement savoir », on retrouve les thèmes et les mystérieux parfums que renfermaient vos précédents ouvrages, c'est-à-dire « La voyeuse interdite »,« Garçon manqué »,« Mes mauvaises pensées »,« La vie heureuse », pour ne citer que cela. Sauf que vous revenez avec des mots nouveaux, plus précis, des images plus nettes. Par exemple, quand vous parlez de votre rapport entre l'Algérie et la France, vous avez tout de suite la phrase qui résume votre double appartenance. La France, c'est le vêtement que je porte. L'Algérie, c'est ma peau livrée au soleil et aux tempêtes. Et quant à vos passions, et ben là, dans ce dernier roman, et ben vous les nommez comme elles sont, c'est-à-dire ce sont des passions homosexuelles. Le mot est enfin employé.
Il était temps. C'est vrai que je reviens à mes premières amours, mais étrangement, c'est un tout nouveau livre. Alors, il emprunte des thèmes qui me sont chers, et c'est vrai que je suis l'écrivain de l'Algérie, je suis l'écrivain du métissage, je suis l'écrivain de la sensualité. J'ai souvent dit que j'avais très peur de réécrire toujours le même livre, que je ne voulais pas, que j'étais dans un laboratoire à toujours chercher, déconstruire, reconstruire. Mais finalement, elle est là, mon identité. Et finalement, ce livre, je vais inlassablement le réécrire et inlassablement, il est nouveau parce que j'ai maintenant la cinquantaine et que j'ai pris de la distance avec mes démons et que j'ai un regard beaucoup plus tendre peut-être sur ce pays qui était pour moi le terrain de la beauté, le terrain de la sensualité et bizarrement le terrain de la liberté, même si c'était un pays déjà à l'époque un petit peu corseté, muselé.
Et moi, violent, il y a des violent. Scènes très très violentes d'ailleurs,
j'ai appris
dont
la liberté,
votre mère est victime d'ailleurs.
Complètement, mais c'est un livre aussi sur ma mère avant tout, c'est un portrait sur ma mère, mais un portrait qui est bombardé par d'autres portraits. C'est-à-dire que ma mère est cet astre qui n'est pas un astre noir, mais un astre lumineux. Et moi, je gravite autour d'elle parce qu'elle elle occupe le sommet de la pyramide des femmes que j'ai admirées, que j'ai aimées, que j'ai désirées. Et ma mère est la première femme qui m'ouvre à la poésie, qui m'ouvre à la littérature et qui m'ouvre aussi à la violence.
Et pourtant, vous le dites, vous l'écrivez, Nina Bouraoui, l'écriture n'apaise pas, c'est le feu sur le feu.
Oui, c'est vrai. Mais je n'écris pas pour être apaisée. Je pense que quand j'écris, je suis dans une sorte de brasier, surtout quand l'écriture prend. Elle est longue à prendre. Ce livre a été très, très compliqué à écrire pour moi. Je l'ai porté pendant un an et je l'ai écrit à la fin de l'année. En fait, je l'ai écrit en quelques mois, mais il m'a hantée pendant un an et je ne savais pas. Je pense que j'avais encore cette honte. Dans le livre, je parle de l'homophobie que ressentent les homosexuels à leur encontre. C'est notre propre homophobie. Et je pense que la différence est tout un chemin de toute une vie pour la vivre, pour l'accepter. Enfant, on est un enfant homosexuel. Ça, il faut qu'on le sache. Tout le monde doit le savoir. On ne devient pas homosexuel. En tous les cas, pour ma part, moi, je pense qu'on est homosexuel. Et le milieu dans lequel on est nous permet peut-être de le vivre plus ou moins bien ou de le cacher. Ça dépend. Pour moi, c'était pas du tout invisible. C'était même une source de grande joie puisque j'étais entourée. Moi, j'ai été élevée avec des femmes. Mon père partait souvent en voyage pour son métier. Et c'est vrai que ma mère avait des amies splendides. Je ne sais pas pourquoi ça tombait ainsi. Ma sœur aussi. Et dans ce climat, ces criques sauvages, ce soleil, ces peaux nues, c'était un bain de joie et de sensualité. C'est à l'adolescence, quand j'ai compris que je ne faisais pas partie de la norme et que je ne pouvais pas l'intégrer, j'ai essayé, mais je n'y arrivais pas, que je me suis sentie différente et j'ai éprouvé une violence absolue contre moi, parce qu'on n'aime pas être différent quand on est jeune. Alors de 14 à 18 ans, ça a été compliqué. Et puis, ce livre raconte justement, tout d'un coup, la résistance, la frondeuse. À 18 ans, je découvre à Paris, une rue du Vieux-Colombier, le Katmandou.
Oui, le Kat, que vous appelez le Kat.
Oui.
Une boîte où se réunissent les filles qui aiment les filles. Mais cette histoire que vous venez de raconter, qui est la vôtre, Nina Bouraoui, elle épouse une géographie. C'est-à-dire toute cette enfance, c'est l'Algérie.
Oui.
Jusqu'à vos 14 ans.
Oui.
Et puis ensuite, c'est Paris.
Ma mère est française, mon père est algérien. Je nais à Rennes en 67. Ma mère est une femme qui rencontre un étudiant qu'on appelait les Français musulmans à l'époque, en pleine guerre d'Algérie. Ma sœur naît en 62, moi je nais en 67. Ma mère accouche pour moi en France, mais en juillet et en septembre, j'arrive en Algérie. Donc moi je suis entièrement algérienne, mais bizarrement je suis algérienne par ma mère française. C'est-à-dire qui me fait découvrir
l'Algérie,
mon pays, c'est ma mère.
Ouais, qui prend sa voiture et qui
prend sa voiture,
qui va traverser l'Algérie d'Alger jusqu'au sud.
Jusqu'à Tamanrasset. Nous prenons la Transsaharienne, ma mère n'a peur de rien. Et puis après, nous partons en bivouac. Moi, je traverse le désert à pied, le Tassili et le Hoggar. Ce qui me donne aussi la notion de l'origine de l'homme avec les peintures rupestres. Tout d'un coup, je comprends que nous ne sommes pas libres. Parce que ce livre, c'est aussi un livre sur la liberté. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Moi, j'ai toujours le fantasme de me dire que nous dépendons du premier homme, de sa première sauvagerie, de sa première violence, et que peut-être l'homme est un animal violent qui essaye de s'assagir tout au long de sa vie.
On pourra dire la même chose de ces premières filles que vous allez rencontrer à l'âge de 18 ans, dans ce club qui est tout à la fois pour vous le paradis caché et l'enfer subi.
Totalement. C'est-à-dire que je décide d'occuper mon homosexualité comme on occupe un territoire. Je me rends seule dans ce lieu, en cachette. Personne ne le sait.
Et surtout, personne ne vous raccompagne ensuite chez vous parce que vous ne voulez surtout pas qu'on sache où vous habitez.
Mais oui, vous savez, j'ai honte. J'ai
honte. On est dans la clandestinité.
Alors à la fois, c'est très excitant parce que j'ai l'impression de sortir comme un homme. C'est une grande liberté. Et à la fois, ça me fait très peur parce que je suis la plus jeune de cette boîte. J'ai 18 ans. La patronne est Lula Perrin, qui était une figure militante, encore plus que féministe. Je ne saurais comment la décrire, mais en tous les cas, qui a créé ce lieu pour les femmes, m'appelait bébé. J'étais vraiment le bébé. J'étais au bar et je regardais. Et en fait, je crois que j'ai appris mon métier d'écrivain dans cette boîte de nuit, parce que j'ai côtoyé des femmes que je n'aurais jamais côtoyées dans ma vie d'étudiante, entre guillemets, normale. C'est-à-dire que tout d'un coup, je côtoie des prostituées, des anciennes détenues, des ouvrières, des princesses saoudiennes. Il y a tout un mélange, c'est-à-dire qu'au nom de la sexualité qui est commune, on a l'impression qu'on peut tous s'entendre. Mais c'est totalement faux, on le sait très bien. La sexualité, le désir n'a jamais rassemblé. Et bien au contraire, dans cet endroit, moi qui ne connais que la violence des hommes, j'apprends la violence des femmes parce que les femmes sont des passionnées et qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de bagarres. Et j'intègre une bande très étrange qui est menée par la chef Ellie, une femme qui boit beaucoup. Et voilà, avec un couple bizarre, Lise et Laurence. Laurence se drogue beaucoup. Et je suis ces filles qui ne me ressemblent pas parce que j'aime la nuit, mais j'ai mes limites. Parce que je suis peureuse et peut-être que je me dis...
Vous avez de bonnes raisons d'avoir peur parce qu'on vit quand même dans un Paris qui est secoué par le sida. Vous-même, vous posez les questions, comment on peut attraper le sida?
C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'il y a un tabou. On en parle beaucoup pour les hommes à l'époque, mais on n'en parle pas pour les femmes.
Qui sont épargnées, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, oui. Un jour, d'ailleurs, j'avais vu une émission sur San Francisco et il y avait une figure emblématique des femmes homosexuelles et qui disait, mais peut-être que la sexualité entre femmes est une sexualité divine parce que nous avons été épargnées par l'épidémie. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est tabou. Et lorsqu'on a 18 ans et qu'on est en 85, 86, alors que le sida arrive et fait tant de ravages et qui est une maladie presque honteuse à l'époque encore, parce que c'est le début et qu'on ne sait pas, il y a cette angoisse. Et puis oui, la nuit est dangereuse parce qu'il y a ces excès, puis il y a la première déception amoureuse. Voilà, Julia me brise le cœur et je ne m'en remets pas. Et pour reconstruire mon cœur, je commence à écrire. Et c'est là que je commence La Voyeuse Interdite, en fait. En fait, tout correspond. Mes jours éclairent l'obscurité de mes nuits.
Est-ce qu'il y a encore une part de fiction dans vos livres, Nina Mouraoui? Eh bien oui, parce que là, vous racontez cette histoire d'amour, cette première histoire d'amour, ce premier chagrin d'amour. Et encore, c'est un premier chagrin d'amour sans histoire d'amour, comme vous le précisez si bien. Mais vous dites aussi cela, quand j'évoque mon aventure avec Julia, je rajoute des jours, j'étire le temps pour qu'il devienne un temps amoureux, que cette aventure existe enfin. Et là, on se rend compte que ce récit personnel, ce récit intime, ça reste quand même un roman.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que dans la vraie vie, à l'époque, lorsqu'on sort de la fiction, je crois que j'ai étiré le temps avec Julia. Parce que pour moi, c'était une victoire. D'accepter, de tomber amoureuse, d'avoir une histoire. Alors certes, elle n'a duré que 15 jours, mais je m'en voulais parce que pour moi, la première histoire devait être la dernière, la plus grande, l'histoire de toute une vie, et je suis brisée. Julien, en plus, je le dis pas dans le livre, mais me quitte pour une chanteuse des années 80 que je ne nommerai pas. Donc c'est très très folklorique tout ça, mais elle m'a quand même brisé le cœur parce que tout d'un coup, je m'aperçois que les femmes ne sont pas si douces que ça. Et puis j'apprends la trahison, tout simplement, la trahison amoureuse.
Mais que diriez-vous, c'est une histoire que vous restituez ou que vous romancez, cette histoire, par exemple, avec Julia?
Je l'ai romancée quand je la vivais et je la restitue dans ce roman.
Parce que vous le dites, je fantasme sur ce que je n'ai plus, sur ce que je n'ai jamais possédé.
C'est vrai. Ça sert à ça, la littérature. Mais je pense que dans la vie, j'étais ainsi jeune, parce que j'étais déjà dans l'écriture. Je crois que j'avais beaucoup d'imagination. Enfant, à 8 ans, je sais que je vais écrire. Je sais que j'ai besoin de prolonger l'existence, prolonger ce que je suis. C'est-à-dire que le réel ne me convient pas, ne me suffit pas, et je suis dans la création. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Je pense que c'est la définition, peut-être, du métier d'écrire.
Et cette passion, elle vous a été transmise par votre mère, elle qui tenait ses livres contre sa poitrine comme s'ils avaient été ses enfants.
Oui, j'étais jalouse d'ailleurs. J'étais jalouse des lectures de ma mère. Je pense que j'ai voulu peut-être écrire des livres pour qu'elle tienne à mon tour, et elle me tienne à mon tour contre sa poitrine, que ses livres soient nos enfants, peut-être. C'est très incestueux. Mais j'avais un amour et j'ai toujours, avec ma mère, nous avons formé un drôle de couple parce que ma mère a eu l'intuition que j'étais une enfant différente. Elle ne savait pas encore qu'il s'agissait d'homosexualité, mais elle me laissait à mes bizarreries, à mes déguisements. Je me suis renommée, je me suis débaptisée, rebaptisée. Je voulais m'appeler Mohamed, mais on a choisi Nina. C'était plus facile pour me présenter. Et puis, j'ai jeté mes robes. Je me déguisais bizarrement. Alors, c'était... Peut-être que j'étais très queer, je pense. J'étais pas vraiment... C'était pas comme un garçon, mais j'étais dans un autre genre. On était dans les années 70. Et ma mère, qui adorait Yves Navarre, qui adorait Jean-Louis Borry, qui adorait la littérature, avait et a toujours cette espèce d'ouverture d'esprit où, en Algérie, tout était permis. C'est pour ça que je dis que c'était le pays de la liberté. Donc j'avais le droit de tout faire.
Le pays de la liberté et des violences subies. Et Et vous établissez un parallèle entre la vie de votre mère, cette Française qui, par amour d'un homme et puis aussi d'un pays, va s'installer dans une terre qui n'est pas toujours très agréable pour elle et pour les enfants. Il y a ce parallèle que vous établissez avec votre mère.
Oui.
C'est une manière aussi de rappeler que l'un n'existerait pas sans l'autre. La violence que vous subissez à Paris vous renvoie à la violence que votre mère a subie en Algérie. Alors, bien sûr, c'est écrit d'une manière un peu plus subtile, avec beaucoup plus d'interrogations, mais le parallèle est là. Le parallèle est là dans la structure de votre roman. Ce sont des courts chapitres qui se suivent, qui sont intitulés « Sous-souvenir ou devenir ». Comment vous avez fait ce parallèle entre la vie de deux destins séparés par une génération.
Oui, mais parce que, justement, qui sommes-nous? Nous sommes faits de la mémoire de nos ancêtres, de la mémoire de ceux qui nous ont donné la vie, et nous sommes faits de souvenirs, mais la mémoire est étrange et il faut s'en méfier parce que parfois la mémoire ment. Et je me dis que nous dépendons aussi des fantasmes ou des histoires que nous ne connaissons pas. Et c'est vrai que ma mère m'est souvent apparue comme une sorte de proie. Je le dis très discrètement dans le livre, j'ouvre sa chambre d'enfant et je la referme aussitôt. C'est que ma mère, enfant, il lui est arrivé quelque chose dont elle parle peu, mais j'en ai connaissance assez jeune, assez tôt. L'homme en question, je le croise dans la maison de Rennes, chez mes grands-parents. C'est quelqu'un qui va nous suivre, qui sera là à Noël, jour de l'an. C'est un homme qu'on dit respectable, mais qui a un comportement avec les enfants extrêmement déplacé. Et puis ma mère arrive en Algérie juste après la guerre. Quand tous les Français partent, ma mère fait partie de ces rares Françaises qui, elle, arrive. Donc elle n'est pas accueillie. Elle est accueillie dans un champ de bataille encore. L'Algérie est encore très meurtrie, très triste. Et donc elle souffre d'un racisme anti-français. Il arrive souvent qu'elle rentre en sang, qu'elle rentre agressée, qu'elle rentre avec des crachats dans les cheveux. Mais je trouve que la leçon de courage et la leçon de vie que ma mère m'a appris, c'est que ma mère n'a jamais été raciste. Bien au contraire, ma mère se sentait algérienne. Ma mère a appris l'arabe et nous a fait aimer notre pays peut-être encore davantage que mon père aurait pu le faire, lui, algérien de souche.
Ouais, quitte à désespérer ses propres parents, d'ailleurs, votre mère.
Mais oui, mes grands-parents n'étaient pas contents du tout, avaient peut-être peur et puis faisaient partie de cette génération où on restait entre soi et on n'allait pas à l'étranger. Et pour eux, notre pays, c'était l'Afrique. Lorsqu'on arrivait chez eux, on avait des tests sanguins, des tests d'urine. Nous étions les petites sauvageonnes à contrôler.
Voyageur égaré, sans passé et sans route tracée, détourné sous les pluies torrentielles, les étincelles, les orages de l'été et la valse folle de ton monde. Soupir avant la fin de la nuit, je reviens. Je reviens. Voyageur au long cours, ce retour à l'envers.
Le réveil culturel.
Sous les pluies torrentielles.
Toufik Hakem.
Les arcs-en-ciel.
Reprise du réveil culturel avec Nina Bouraoui. Son dernier roman, édité chez Jean-Claude Lattès, a pour titre « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Vous avez reconnu bien sûr Étienne Dao que vous écoutiez dans les années 80.
Oui, j'ai une grande fan, ouais.
Dans cette boîte de nuit, le Katmandou. qui depuis a disparu pour laisser place à un théâtre d'ailleurs.
Oui, mais c'est bien parce que je pense que les murs sont très chargés d'histoire, alors c'est très bien pour les comédiens.
C'est pas un hasard si j'ai programmé Étienne Dao et certainement cette chanson pour vous, parce que la chanson a pour titre Cap Falcon. Étienne Dao a mis des années avant de pouvoir parler de l'Algérie quittée enfant.
Oui, je sais, oui. Il est oranais.
Il est oranais.
Oranais, rennais, c'est marrant.
Et vous, vous êtes algéroise.
Oui.
Parisienne, en passant par Rennes, hein. Rennes.
Ah oui, bien sûr,
Rennes. Votre mère est bretonne.
Oui, de Rennes. Oui, alors c'est marrant parce qu'il y a une espèce de... Peut-être que nous formons tous une grande famille sans le savoir. On sait que la France et l'Algérie entretiennent, je trouve, des relations passionnelles. C'est un mariage houleux, mais qui est beau et qui dure.
Nina Bouraoui, pour... Continuez à parler de vos souvenirs, il y en a beaucoup, hein, qui constituent la matrice de votre œuvre littéraire, et très particulièrement dans ce dernier roman, « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Ici, il fallait utiliser des mots, cette fois-ci, pour la radio. Par exemple, elle ressemblait à quoi la dernière plage à Alger ?
Je n'allais pas à la plage, j'allais dans les criques. Et j'allais à Bérard, dans un endroit qui s'appelait le Rocher Plat, qui était un grand rocher posé sur l'eau, entre pas très loin de Cherchel, à 80 km à l'est d'Alger.
Ça ressemble à quoi ?
C'est une île, pour moi c'est mon paradis perdu, que je recherche désespérément à travers le monde, que je retrouve parfois un petit peu en Italie, dans la baie de Naples, ou en Corse. Mais c'est vraiment l'idée du bonheur infini.
Est-ce que vous pourriez nous décrire le Kat, donc le Katmandou, cette boîte de filles où votre adolescence s'est achevée ?
Le Katmandou était rue du Vieux-Colombier, il y avait une porte noire. Quand on sonnait, il fallait attendre, parfois assez longtemps, ce qui faisait très peur, parce que moi je me disais, quelqu'un que je connais va arriver, va me reconnaître dans la rue. On descendait trois marches, il y avait des premières tables autour du bar, une toute petite piste. Et derrière la piste, il y avait les places des filles qui n'étaient pas les VIP, on va dire. C'était un peu le... Alors moi, je me suis retrouvée derrière la piste. Et puis après, il y avait une espèce de progression. Plus on était familier avec la patronne et Lula, plus on progressait dans la boîte de nuit.
Pourriez-vous, cette fois-ci, nous décrire à Alger l'immeuble Shell à Hydra, votre dernière adresse en Algérie ?
J'ai grandi dans ce qu'on nomme la résidence du Petit Hydra. C'est un immeuble construit en arc de cercle, avec des bâtiments qui sont nommés de A à G. Alors des bâtiments, je crois que le plus grand doit faire 13 ou 15 étages, et le plus petit peut-être 8 étages. Et c'est un bâtiment qui a été construit d'après l'école du Corbusier. Et ce qui est assez fantastique, c'est qu'il est entouré d'un parc. Un parc magique, où il m'est arrivé de me perdre, de manger des fleurs magiques. Il y avait quelque chose de très étrange, et je crois que je suis marquée par ce parc, et que chaque personne que je connais qui ont traversé ce parc ne sont plus tout à fait les mêmes depuis cette expérience. Il y a, alors est-ce que c'est cette terre sismique, est-ce que c'est cette foison de glycine, de mimosa, de bougainvilliers ? J'ai l'impression que la terre, le cœur de la terre, bat à la résidence.
Et la maison de vos grands-parents en Bretagne, dans cette région marquée par la Seconde Guerre mondiale, elle ressemblait à quoi ?
Alors mes grands-parents, ma mère est née peu avant la guerre, et elle a eu beaucoup de chance parce qu'ils avaient une première maison, et mon grand-père fait un rêve prémonitoire, et un obus va tomber sur la maison, mais la veille, il leur dit de tous partir à la campagne. Et là, ma mère vit la guerre comme un jeu. Et puis il y a une seconde maison, celle que je connais, qui existe toujours. Mon grand-père est toujours vivant, il a 104 ans. Cette maison, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, enfin si, ça fait quand même... Et c'est une grande maison familiale, bourgeoise, avec un grenier, avec 5 étages, avec, je pense, beaucoup de souvenirs et encore pas mal de fantômes. Et un jardin qui a toujours la tortue de mon enfance. Je l'ai retrouvée, elle est toujours vivante.
Iti Mimoun, ce paradis hors du temps, loin des garçons d'Alger et des filles de Paris. Cet Éden qui ressemble à une oasis peut-être.
Oui, Timimoun, c'est le. Je trouve que c'est déjà l'Afrique dans le désert parce que c'est un village qui est rouge. Il y a un hôtel fabuleux construit par Pouillon. Où, dans lequel on descendait après des heures de route. Et bizarrement, il y a deux piscines alors, au cœur du désert. Et Timimoun a une palmeraie splendide. La vie est là. Ce n'est plus la sécheresse du désert. Il y a quelque chose de très fort, de très graphique aussi. C'est l'Afrique dans l'Afrique. C'est très, très étrange, cet endroit.
Et enfin, pour terminer, Nina Bouraoui, cette crainte de revenir en Algérie, elle vous habite toujours ?
Non, enfin... La peur, je n'ai pas peur de l'Algérie, je n'ai pas peur des Algériens, j'ai peur de moi. J'ai peur d'ouvrir la porte de la fiction. L'Algérie, elle existe dans mes livres. Je ne cesse d'y puiser la lumière, les odeurs, la force, la violence, la douceur. J'ai peur de ne plus écrire si je retourne en Algérie.
Vous n'êtes plus retournée depuis vos 14 ans ?
Depuis 1981. Et je sais que je suis attendue là-bas avec beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. Alors le voyage, je le ferai. Je ne sais pas quand, mais je le ferai.
Tous les hommes désirent naturellement savoir. C'est le titre de votre dernier roman. Et ça ne parle que de ça. C'est édité chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Nina Bouraoui, d'être venue ce matin.
Merci.